Fais attention. Je t'assure, tu vas voir. Tu vas avoir des déconvenues parce que t'es trop gentil.
Je m'en fous ce qui arrive en deuxième mi-temps, même si on perd. Au moins on joue avec notre fierté. Et on joue dur. Après on perd, c'est pas grave, c'est la vie. Mais moi je préfère perdre en se battant.
Bonjour à nos sportives, à nos sportives. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode des Athlètes avec au menu Simon.
Hello.
Qui va vous parler de la finale d'Eurocup de basket entre deux équipes françaises, la JL Bourg et Paris Basket. Puis j'enchaînerai avec un peu d'actu football féminin avec la nouvelle ligue professionnelle. Je détaillerai après. Et enfin, PA, comme
Coucou.
Toujours.
Comment ils vont ?
Ils vont bien, j'espère. PA, dans sa nouvelle chronique, il va parler des chances de médaille de nos athlètes français en athlétisme aux JO. Allez, c'est parti !
Bonjour à tous. Après vous avoir parlé d'Euroleague, laissez-moi vous parler de sa petite sœur, c'est-à-dire l'Eurocup. Pour l'introduire rapidement, l'Eurocup est la deuxième meilleure compétition européenne et elle permet l'accession à l'Euroleague. Elle regroupe les meilleurs clubs d'Europe en deux championnats. Aujourd'hui, on va revenir sur une saison historique pour nos deux clubs français inscrits dans cette compétition. D'un côté, on a le club parisien du Paris Basket, une équipe créée de toutes pièces il y a peu pour redynamiser le basket dans la capitale. C'est donc un club très ambitieux et qui le prouve. Car depuis sa création, chaque saison est meilleure que la précédente. Par exemple, l'année dernière, ils sont passés de la 15e place à la 9e place du championnat de France. L'année 2024 leur présage donc que des bonnes choses, et ça commence par l'inauguration de leur nouvelle salle, l'Adidas Arena. Côté sportif, le Paris Basket décroche un premier titre de son histoire lors de la Leaders Cup en février. Tout au long de la saison, le Paris Basket s'impose comme un véritable rouleau compresseur en championnat d'Europe et termine avec un record de 17 victoires pour seulement une défaite. Paris confirme alors son statut de favori lors de la fin de saison en ne perdant aucun match lors des playoffs, se hissant en finale de la Coupe d'Europe sans aucune difficulté. De l'autre côté, on retrouve mon club d'origine et de cœur, la JL Bourg. Un club familial et chaleureux, passé par le monde amateur et qui maintenant ne cesse de grandir et d'imposer son identité dans le basket français. Depuis que Equinox est créé, la JL ne s'arrête pas de grandir. Ils entament aujourd'hui leur 4e saison de suite en Eurocup. Ayant eu la chance d'assister à ce choc face au tenant du titre, Grande Canaria, un match où les deux équipes se battent pour la première place, la JL Bourg a prouvé qu'elle pouvait rivaliser et s'imposer même après prolongation contre les grosses équipes européennes. À l'image de cette victoire et de cette première place dans la poule B de Eurocup, Bourg-en-Bresse enchaîne une fin de saison remarquable et hisse petit à petit les marges jusqu'à la finale après un duel au sommet en demi-finale face à l'équipe historique du Beşiktaş. C'est donc la première fois de l'histoire que le basket français hisse deux équipes en finale de l'Eurocup et rajoutera donc forcément une troisième équipe française en Euroleague l'année prochaine. Cette finale 100% française permet surtout de promouvoir le basket français sur la scène internationale et d'avoir encore plus de visibilité sur nos jeunes pépites à l'image de Zachary Zaché, futur drafté, ou encore Nadir Rifi et Hugo Benitez. À l'approche de la finale, Paris est favori, notamment car il a l'avantage du terrain et surtout car il n'a perdu aucun match jusqu'à la finale. Cependant, la JL qui réalise une saison historique peut tout de même créer la surprise en tant qu'outsider. La finale se joue en 3 matchs, c'est la première équipe à 2 victoires qui l'emporte. Maintenant, place au match. Le premier est remporté par l'équipe à domicile, le Paris Basket, qui a su dominer la JL Bourg qui est totalement passée à côté de son premier match, peut-être par manque d'expérience. Le match 2 est donc déjà décisif. Il se joue en Bresse, dans la petite ville de Bourg. L'ambiance était au rendez-vous, comme lors des matchs précédents. Et le match était une vraie bataille. Cette fois-ci, les deux équipes se rendent coup pour coup et l'on assiste à un super match digne des finales d'Eurocup. Mais comme dit précédemment, l'année 2024 tend les bras aux Parisiens, qui remportent ce match. La cruauté du sport fait que l'équipe du Paris Basket, sacrée championne d'Europe, célèbre devant le public burgien et soulève le trophée sur le parquet de l'équipe adverse. La JL Bourg du coach Fautou n'a pour autant pas à rougir, car elle réalise une saison historique. Le club a fait vibrer ses supporters, et surtout, l'équipe a permis de mettre Bourg-en-Bresse sur la carte du basket européen. En ce qui concerne Paris, ils auront l'occasion par la suite de la saison de battre le record d'invincibilité d'une équipe française établie à 24 victoires. En ce qui concerne Paris, ils auront l'occasion par la suite de la saison de battre le record d'invincibilité d'une équipe française établie à 24 victoires de suite. On surveillera donc la fin de saison de ces deux clubs qui peuvent encore décrocher un titre de champion de France et pourquoi pas faire le triplé du côté du Paris Basket. En tout cas, le basket français se porte bien et de belles années sont à venir. C'est tout pour moi, merci. Maintenant, je vous laisse avec Céleste qui va vous parler de foot féminin.
Pour cet épisode, exceptionnellement, vous ne retrouverez pas un portrait parce qu'il s'est passé quelque chose d'important dans l'actu du sport féminin dont il faut que je vous parle. Ce lundi 29 avril restera une date historique pour le football féminin en France. Alors, une ligue professionnelle de football féminin a enfin été lancée. Et non, contrairement à ce qu'on peut croire, elle n'existait pas auparavant. Donc en effet, à partir du 1er juillet prochain, la D1 Arkema deviendra la première ligue. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Donc, elle a été officiellement présentée par le président de la FFF, Philippe Diallo, et son vice-président, Jean-Michel Aulas. Alors juste pour expliquer, une ligue professionnelle, c'est une association déclarée créée avec l'accord de la Fédération Française de Football. Disons qu'en fait, c'est un statut que la D1 Arkema n'avait pas encore. Et franchement, c'est un peu grave quand même. Comme je le disais, elle sera officiellement lancée le 1er juillet prochain. Et l'objectif, c'est de faire de la France la meilleure ligue européenne de football féminin professionnelle. Sachant que l'Angleterre a pris de l'avance depuis 2018, parce que c'est depuis cette date-là qu'elle bénéficie du professionnalisme. Donc entre 50 et 70 millions d'euros vont être investis sur 5 ans, dont 10 millions pour la saison prochaine, pour aider la structuration des clubs qui seront dans 2 ans 14 au lieu de 12. Donc je cite, « J'aimerais bien avoir tous les grands clubs français masculins dans cette D1. De préférence au mérite, mais intégrer un club directement en première division, moi, ça me choque pas. » avait expliqué Jean-Michel Aulas, l'ancien président de l'OL, qui d'ailleurs a été élu à l'unanimité par le comité exécutif de la FFF pour être le président de cette ligue. Alors, ce qui a été dit pendant cette annonce, c'est que l'accent sera mis sur la professionnalisation de la D2, l'équivalent de la Ligue 2 masculin. Donc déjà, qui va devenir aussi la deuxième ligue, ça sera son nouveau nom. Donc la fédération a décidé de se pencher sur cette deuxième ligue pour améliorer ses conditions. Parce que c'était le gros problème que rencontrait le football féminin, cette précarité dans laquelle les joueuses vivaient, du moins moins maintenant en D1, mais on en reparlera juste après. Parce que la plupart des contrats étaient en temps partiel. C'est ce que racontait Mélissa Plaza dans son livre « Pas pour les filles », où elle vivait avec environ 600 euros par mois lorsqu'elle jouait à Guingamp, donc un club qui est encore actuellement en D1. Donc vraiment, 600 euros par mois pour vivre, franchement, c'est pas assez. Après, ça remonte il y a quelques années, mais malheureusement, c'est toujours le cas pour certaines équipes. Donc en gros, on va parler de ses avancées et des objectifs qu'a cette ligue professionnelle. Donc déjà, c'est toutes les joueuses de première ligue devraient gagner au moins le SMIC. Alors je tiens à rappeler que la première ligue, c'est la Ligue 1 chez les hommes. Donc l'objectif de au moins gagner le SMIC pour cette ligue, c'est quand même, ça devrait être au moins le minimum, franchement. Et enfin, aussi d'ici 2028, la fédération entend également doubler le nombre de licenciés pour atteindre le seuil symbolique des 500 000 licenciés, sachant qu'on est actuellement à 250 000 à peu près. Donc c'est un chiffre très ambitieux, mais atteignable au vu de la progression actuelle, selon Philippe Diallo. Donc conclusion, il y a de grandes avancées pour le football féminin en France. J'en suis vraiment contente en tant que joueuse et passionnée de football. Mais bon, on verra comment ça va se passer, parce que l'objectif, c'est quand même d'atteindre l'égalité un jour. Et pour l'instant, juste essayer d'avoir le SMIC en Ligue 1, enfin en Première Ligue, franchement, voilà quoi. Donc maintenant, je vais passer la parole à PA, qui va vous parler d'athlétisme au JO. Allez, à ton tour PA.
Bon, là on s'attaque à un gros morceau. Mais beaucoup plus en accord avec le titre de l'émission, on va en effet parler d'athlétisme. C'est une des disciplines phares de tous les Jeux Olympiques, et c'est bien évidemment normal qu'elle ait une émission à part entière. Alors, même si on a une chronique entière pour parler uniquement d'athlétisme, on va pas pouvoir tout traiter parce qu'il y a une infinité de catégories, de distances, de disciplines. Déjà, je vais profiter de la présence de mes deux collègues pour faire un petit sondage. Est-ce que vous regardez régulièrement l'athlétisme ?
Non. Franchement, à part aux JO, non.
Ouais, moi c'est pareil, que pendant les JO.
La réponse, elle est donc bien évidemment non. Hormis peut-être les championnats du monde, il n'y a guère qu'aux Jeux Olympiques que le grand public s'intéresse à l'athlé. Mais on sait pas trop, pendant les Jeux, il y a quelque chose qui se crée. On a l'impression que c'est le sport numéro 1. Et ça, c'est symbolisé par le fait que toutes les épreuves d'athlé auront le Stade de France pour elles toutes seules, ou presque. Et dans ce Stade de France, il y a assez peu de chances pour qu'on voit nos Français briller. Allez, la transition, bim ! Hélas oui, depuis un certain temps déjà, l'athlé français est en crise. Et pas la petite crise, la grosse crise. Une seule médaille d'argent aux mondiaux de Budapest en 2023, l'argent avec le 4x400 mètres. Une médaille d'or aux mondiaux de Eugene en 2022, Kevin Mayer sur le décathlon. Une médaille d'argent à Tokyo en 2020, encore Kevin Mayer. Et deux médailles, une en argent et une en bronze, aux mondiaux de Doha en 2019, Pascal Martineau-Lagarde et Quentin Bigot. Donc, là où sur les grandes compétitions, les Américains peuvent ramener plus de 20 médailles, nous Français en ramenons qu'une seule. Alors, on va quand même essayer de faire un petit tour d'horizon de nos meilleures chances en essayant d'être le plus optimiste possible. Quels sont nos royas, nos gars sûrs ? Alors, premièrement, il nous faut parler de Kevin Mayer. Alors, techniquement, il n'est pas encore qualifié à l'heure où on se parle, puisqu'elle a abandonné lors du décathlon de San Diego en mars et doit donc trouver un autre moment pour faire les minima, ce qui devrait être le cas lors des championnats de France les 18 et 19 mai. On le rappelle, il n'a pas fini un décathlon depuis son titre à Eugene en 2022. Cependant, il aura forcément à cœur d'être présent à Paris et aller chercher ce titre olympique qui lui manque après deux médailles d'argent. Malgré tout, il ne sera pas non plus tout seul, puisque Damian Warner, tenant du titre, va pas le laisser faire aussi facilement. Non, non, non. Ensuite, on peut également parler de notre star locale, Mélina Robert-Michon, en lancée du 10, qui s'entraîne au Lyon Athlétisme, ouais, et qui, malgré ses 44 ans, est toujours à un niveau assez impressionnant. En effet, elle est encore troisième lors des derniers Jeux européens en Pologne, je ne saurais même pas dire le nom de la ville, et est pas très loin de ce qui lui avait permis d'obtenir la médaille d'argent à Rio en 2016, avec des lancers toujours au-dessus des 60 mètres. En tout cas, elle ne cache pas ses ambitions d'aller chercher une médaille, mais également d'être désignée porte-drapeau de la délégation tricolore, mais ça c'est un autre sujet. Alors, on peut citer aussi Renelle Lamotte, spécialiste du 800 mètres, trois fois médaillée d'argent lors des championnats d'Europe, qui, elle, contrairement aux deux autres, a déjà réalisé les minima pour les Jeux, où elle espère accrocher une médaille olympique, ce qu'elle n'a pas réussi à faire à Tokyo et à Rio. En tout cas, elle est 11e mondiale au classement World Athletics du 800 mètres. Alors, maintenant, l'ennui, c'est que son record personnel est à 1 minute 59, et si on prend comme référence la finale des derniers Jeux Olympiques, le podium, il est à 1 56. Donc, en gros, si on veut qu'elle aille chercher le podium, il faut, premièrement, qu'elle pulvérise son record personnel, deuxièmement, espérer que les autres, genre Marie Mora, Kelly Hodkinson ou Ating Mu, la championne olympique, se plantent un peu, et que le public du Stade de France soit en feu, ouais! Alors, on pourrait aussi citer Alice Finot aux 3000 mètres, Jimmy Gressy en marathon, Gabriel Tual et Benjamin Robert en 800 mètres, Willem Bellossian, Pascal Martino Lagarde, Sacha Zoya au haie, ou encore Thibaut Collet au saut à la perche. Mais le problème, c'est que si on se concentre sur les Français, on risque de pas trop s'amuser. Donc on va se pencher plutôt sur les gros poissons qui seront présents à Paris. Enfin, plutôt les gazelles ou les kangourous. Un animal qui vit sur la terre, quoi. Parce que les poissons, en fait, ce sera plutôt pour la natation, puisqu'ils nagent dans l'eau. Et là, les athlètes, en fait, ils ne nagent pas, ils courent. Enfin, il saute ou il... Bref, déjà, il y en a un, je crois qu'il a eu les minima, puisqu'il a battu 8 fois le record du monde sur les 4 dernières années.
Est-ce que c'est bon pour vous ?
Je veux bien entendu parler de moi ! Et non, c'est bien évidemment Armand Duplantis, le Suédois volant, qui détient donc actuellement le record du monde de saut à la perche, avec une performance de 6m24, effectuée à Xiamen en avril dernier. Il est donc l'immense favori pour le titre olympique, qu'il a déjà, au passage. Il y aura également la présence du champion du monde du 100 mètres, mais aussi du 200 mètres, mais aussi du 4x200 mètres, j'ai nommé Noah Lyle. L'Américain est favori, mais il faudra aussi se méfier de l'autre Américain, Christian Coleman, qui s'était un peu planté sur les mondiaux, mais qui est beaucoup plus constant et qui s'était imposé pour leur dernier affrontement en septembre. Duel américain en perspective, donc, sur les épreuves de sprint. Mais on peut parler aussi de quelqu'un d'autre, Gianmarco Tanberi. Vous savez, celui qui s'était rasé la moitié du visage. Bref, le sauteur en hauteur va concourir pour un second titre olympique après son égalité avec le Qatari Barshim en 2021. Néanmoins, il ne faut pas enlever le vice-champion du monde du saut en hauteur, l'Américain Juvogn Harrison. On s'attend donc à un match à 3 pour le titre et donc pour le podium, puisqu'ils sont 3 et qu'il y a 3 marches sur le podium. C'est la logique. Enfin, il nous faut parler du marathon. Alors, on va le dire vite, Eliud Kipchoge, légende de ce sport, double champion olympique, à 39 ans, il va évidemment défendre son titre. Mais on ne peut pas ne pas évoquer Kelvin Kiptoum, recordman du monde et qui aurait certainement été favori pour le titre olympique à Paris, mais le Kenyan a hélas perdu la vie dans un accident de voiture au Kenya en février dernier et il est évident qu'un hommage lui sera rendu pendant ces Olympiades. Je vous souhaite une très bonne journée, on peut se quitter et on se retrouve le mois prochain pour le dernier épisode des athlètes cette saison. Non, pleurez pas. Et moi, je vais vous parler de natation. Et là, on pourra les qualifier de gros poissons. Allez, la bise à toute la famille.
Bien, avant de nous quitter, on aimerait quand même se pencher sur l'actualité sportive du moment. Bien, les gars, de quoi avez-vous envie de parler ?
Alors, déjà, comme d'habitude, il y a la Ligue des Champions.
Ouais, c'est vrai qu'il faut qu'on se penche dessus quand même un peu.
On ne peut pas passer à côté. Les demi-finales de la Ligue des Champions, entre d'une part Dortmund et le Paris Saint-Germain, et ensuite le Bayern et le Real Madrid, c'était les matchs aller cette semaine. Enfin, la semaine où on enregistre, la semaine où ce podcast sort, normalement c'est déjà fini. On a l'affiche de la finale. Mais pour l'instant, on sait que Dortmund s'est imposé à domicile face au PSG avec un but de Niklas Füllkrug à la 36e minute.
Ouais.
Et que le Bayern et le Real Madrid se sont quittés dos à dos par un beau score de 2 partout après des buts de Leroy Sané, Harry Kane et Vinicius Junior.
Ouais, un très beau match, une très bonne bagarre.
Un match retour qui s'annonce palpitant au Bernabéu.
Exactement. Entre deux monstres historiques de cette compétition.
Exactement.
C'est quoi vos pronostics, les gars ?
Allez, Madrid.
Ah bah, ouais, je vois pas comment on peut ne pas dire Madrid.
Ouais, je suis d'accord. Je les vois pas perdre comme ça.
À l'expérience, ils ont la dynamique du moment.
Totalement.
Et ils ont sorti City.
Exactement. Ouais. Le gros poisson.
Et pour le PSG Dortmund, là ?
On veut quand même aller voir le PSG en finale.
Ouais. Surtout qu'ils sont connus pour faire ça. Perdre le premier match et gagner le deuxième en défonçant l'équipe adverse. Mmh. Ils ont fait ça en quart de finale.
Le retour est à domicile. Donc. Moi,
j'avoue, je vois bien Dortmund passer, mais étant donné que mes pronostics sont d'une fiabilité à toute épreuve...
C'est vrai. C'est vrai que nos pronostics du mois dernier étaient vraiment... En fait, il s'est passé le contraire de ce qu'on a dit.
Exactement. Vraiment. Donc, si vous voulez réussir vos pronostics, dites le contraire de ce qu'on dit et puis vous êtes sûr de gagner.
Totalement. Faites confiance à nous pour les paris. Faites l'inverse de ce qu'on dit.
Alors ensuite, on a aussi l'Europa League avec un club français.
Oui, c'est vrai. J'avais zappé ça.
Et oui, Marseille qui a joué hier soir, ouais. Toujours au moment où on s'enregistre. Et bon, on peut pas dire que c'est une très bonne opération qu'ont fait
les Marseillais
au Vélodrome, puisqu'ils ont ramené un nul face à l'Atalanta. Et donc, avant le match retour à Bergame, c'est pas forcément la meilleure situation.
Tout sera à refaire.
Exactement.
Ouais, mais ce n'est pas la fin.
Il n'y a pas eu de défaite. Ils n'ont pas de retard, c'est déjà ça.
Ouais. J'aimerais revenir aussi sur la Ligue des Champions féminines, parce qu'un club français s'est qualifié ce week-end face à un autre club français. Donc c'est l'OL féminin qui a gagné contre le PSG. Donc vu le premier match, c'était prévisible, on va dire. On s'attendait, personnellement, je m'attendais à une victoire de l'OL féminin. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner à la suite. Est-ce qu'elles vont gagner une nouvelle fois la Ligue des Champions, sachant que elles l'ont pas gagné l'année dernière, que ça faisait un peu pente descendante pour les Lyonnaises. Donc, moi, je veux les revoir gagner.
On est tous derrière Lyon de toute façon.
Ouais. Allez l'OL.
Allez l'OL, oui. Donc ensuite, il y a quoi dans l'actualité en ce moment?
Moi, de mon côté, qui suis basketteur, c'est le moment le plus croustillant parce qu'il y a les playoffs d'Euroleague et de NBA. Du côté de l'Euroleague, la meilleure coupe d'Europe, pour l'instant, la seule équipe qualifiée en demi-finale à l'heure où je vous parle, c'est le Real Madrid, les tenants du titre, qui sont pour moi quand même favoris.
Oh bah tiens.
Encore les mêmes. Et on retrouve la seule équipe française qualifiée pour les playoffs, c'est l'équipe de Monaco, qui est actuellement dos au mur et qui devra gagner le match vendredi pour être qualifiée en demi-finale. En cas de défaite, c'est les vacances. Et du côté des playoffs de NBA, on a déjà quelques affiches pour les demi-finales. On a Minnesota contre Denver et Indiana contre l'équipe de New York. Pour moi, les favoris sont évidemment Denver, qui ont fini deuxième de saison régulière, mais qui ont mis une petite fessée à l'équipe de LeBron James, les Lakers, et qui vont essayer de réaliser le back-to-back, c'est-à-dire deux titres consécutifs.
Alors, il y a aussi le tournoi de Madrid dont on peut parler en tennis, avec déjà une grosse affiche chez les dames, puisqu'on a eu Aryna Zabalenka face à Elena Rybakina, c'est-à-dire deux des quatre meilleures joueuses du monde. Et finalement, c'est la Biélorusse Zabalenka qui s'est imposée en 3-7 face à Rybakina.
T'es content, Simon ?
Ouais, je suis pour Sabalenka, moi.
Ah, et on va pas être potes. Ah. Mais surtout...
Je suis neutre.
Surtout, il faut se prosterner devant la légende, Rafael Nadal, qui a sorti en 16e de finale Pedro Kachin, après un match de plus de 3 heures, 3-7.
Et juste avant, un petit jeune de 16 ans.
Exactement. Bon, il a pas... Voilà.
L'expérience a fait parler.
Exactement.
Vraiment, parler là. Vraiment parler, le pauvre.
Mais il a joué contre son idole, donc ça va.
Donc il était content.
Mais oui.
C'est lui qui a réussi à choper son maillot ?
Non, c'est Pedro Kachin. Et en huitième de finale, hélas, le Mallorcain s'est incliné face à Jiří Leeka, 30e mondial, en 2-7. Donc voilà, c'est une défaite un peu amère. Mais c'est quand même assez rassurant dans la route vers Roland-Garros.
Est-ce que vous pensez qu'il se retirera sur les cours de Roland-Garros à la fin de la...
Je sais pas, je me dis, il y a les jeux quand même.
Ouais, il y a les jeux et puis, enfin, je sais pas, je le vois pas abandonner comme ça en fait.
Ouais, je suis d'accord.
J'ai l'impression que...
On veut le voir abandonner sur un titre.
Ouais.
Enfin, pas abandonner, mais...
Je le vois bien faire la fin de l'année.
Ouais.
Après, l'année prochaine, à voir. Enfin...
Genre la Laver Cup et puis après, comme Roger Federer il y a quelques années.
Ouais, totalement.
Après, il fera en fonction de son corps, je pense. Hein.
Ouais. Oui, surtout. Je pense aussi, ouais.
Mais il y a Rafael Nadal qui prend sa retraite à la fin de la saison, a priori, maintenant, c'est sûr. Mais il y a aussi Alizé Cornet qui prend sa retraite après Roland-Garros. Donc ça passe un peu plus discrètement. Mais voilà, c'est quand même une grande joueuse française qui prend sa retraite après Roland-Garros.
Ouais. Bon, c'était pas la meilleure joueuse du monde,
non.
Mais elle s'est bien défendue sous les couleurs de la France pendant de longues années. Ne plus la voir sur les cours, franchement, ça va faire bizarre.
Il va nous manquer un meuble, globalement.
Ouais, totalement. Bref, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans l'actualité ? Moi, j'aimerais bien vous parler du tournoi Destination du rugby féminin, parce que du coup, ça c'est fini. Et malheureusement pour nos Françaises, elles sont arrivées deuxièmes du tournoi 6 Nations. Donc c'est pas non plus une mauvaise performance, on va pas se mentir. Mais bon, quand on voit la différence de points entre l'Angleterre et la France, on voit quand même qu'il y a encore un step à passer pour nos Françaises.
Disons que ça commence à être un peu frustrant, quoi. Ça fait beaucoup de deuxième place, etc.
Totalement, parce que y a déjà eu ça, cette deuxième place au dernier JO. Donc c'est bien d'être deuxième, troisième, mais bon, on aimerait bien les voir sur le podium.
On veut le trophée, nous.
Mais oui, totalement. Donc allez nos Françaises, on y croit pour
on
les JO.
Pas espoir pour le rugby à 7.
Totalement, le rugby à 7 au JO, on y croit. Franchement, elles ont de grandes chances de gagner.
Mais quand même, globalement, le rugby français se porte plutôt bien.
Ouais, très bien. Bon.
On a de belles années à venir.
Exactement.
De belles années, mais bon, on attendait une victoire à la dernière Coupe du Monde, mais elle n'est pas arrivée. Donc, on va voir comment ça va se passer.
Pourquoi ?
On espère que ça ne va pas être une pente descendante. Parce que sinon, c'est comme ça.
Ouais. Et enfin, moi, j'aimerais vous parler du Tour d'Italie, qui commence bientôt, le Tour d'Italie cycliste, le Giro, avec un homme qui concentre tous les projecteurs, c'est évidemment Tadej Pogacar, le double vainqueur du Tour de France, triple vainqueur du Tour de Lombardie, vainqueur de Liège-Bastogne-Liège, vainqueur de tout, finalement.
Il est toujours là, lui.
Il est toujours là, toujours. Et surtout, il a 25 ans, donc a priori, on le verra encore pendant
seulement
longtemps. Et oui, seulement.
C'est un bébé.
Ah, c'est un gosse.
Ça
c'est vraiment un gosse.
Le poison du cycliste, il va rien laisser aux autres.
Exactement.
Mais vraiment.
Et donc, il est au départ de son premier Giro. On voit mal, à part chute, crevaison ou vraiment malchance, qui pourrait l'en empêcher, même si on est tous derrière Romain Bardet, évidemment, qui avec sa forme affichée, sa deuxième place sur Liège-Bastogne-Liège, peut clairement aller accrocher un podium. Mais voilà, Tadej Pogacar, c'est l'immense favori, et a priori, il fera aussi le Tour de France. Et avec la blessure de Jonas Vingegaard sur le dernier tour du Pays Basque, on peut imaginer un Jonas Vingegaard pas à sa pleine forme, et donc un doublé Giro Tour pour Tadej Pogacar, ce qui n'a pas été fait depuis Marco Pantani en 1998, ce qui constituera un immense exploit.
Moi, j'ai un dernier petit truc à dire, si on peut revenir sur le foot. Lors de la phase aller des demi-finales de Ligue des Champions, malheureusement, il y a notre international français, Lucas Hernandez, qui s'est blessé en première mi-temps, il me semble, sur une contre-attaque. Il est victime d'une rupture des ligaments croisés. Je ne saurais pas vous dire plus précisément.
A priori, c'est fin de saison et pas d'Euro.
Et ouais, c'est, pas d'euro. C'est ça, ouais. Tout, ouais. Et donc, il ne sera pas sélectionnable pour l'Euro.
Ouais, ça, c'est vraiment préjudiciable.
C'est pas la première fois hein, qu'il lui arrive un truc comme ça. Ouais.
Il a fait le premier match, il me semble, des derniers... Il avait fait une compétition où il avait quitté au premier match où il s'était déjà fait les croisés.
Ouais, c'est répétitif le pauvre. J'espère qu'au niveau du moral, ça va.
Et puis là, pour l'équipe de France, c'est surtout un gros coup dur.
Ouais, surtout qu'on manque beaucoup de défenseurs quand même. C'était un peu notre problème ces derniers temps. Donc on espère qu'il n'y aura pas d'autres blessés déjà.
Ouais. Ouais, parce que sinon, ça sera vraiment, vraiment un gros problème face à l'équipe d'Angleterre qui a une attaque du turfu.
C'est clair.
Mais bon, ils gagnent rien à chaque fois, donc on verra.
C'est ça, il y a Harry Kane dans leur équipe.
Il
ne
faut pas leur porter
ouais,
l'œil. Il ne faut pas nous porter l'œil.
Il y a Harry Kane, le pauvre.
C'est vrai. Ouais.
Le chat noir.
Il est voué à ne rien gagner
ouais,
jusqu'à la fin de sa saison, fin de sa vie.
Alors qu'il le mérite quand même.
Mais méfions-nous, il est encore en liste avec le Bayern.
Oui. Toujours, oui. À voir. Est-ce que Harry Kane gagnera une Ligue des Champions ? Est-ce qu'il a bien fait de quitter Tottenham ? On le saura à la fin de la saison.
Bah, on fait toujours bien de quitter Tottenham.
Je te trouve très méchant quand même.
Sinon, pour parler un petit peu de foot anglais aussi, j'ai vu qu'il y a une équipe plutôt mythique en Angleterre, Leicester, qui a été relégué en deuxième division.
Champions.
Fait son retour, normalement, a réussi à être promu
en première ligue. Ouais.
Bah, c'est une bonne nouvelle.
Avec la légende Jamie Vardy, qui a priori continuerait la balle.
L'homme le plus fidèle sur Terre.
Exactement.
Ah ouais.
Ah oui.
Bah, il est là depuis des années.
Il les a suivis en première ligue, au plus bas, au plus haut, au titre. Ouais. Donc, grande légende de ce club anglais.
Incroyable. Bon, je crois qu'on a tout dit, qu'on a parlé de tout ce qu'on voulait. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés.
Merci.
On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode des athlètes avec au menu de la natation de la part de PA. Moi, je vous parlerai peut-être, je vous ferai une petite chronique encore, un petit portrait sur une joueuse que j'aime beaucoup. Et puis Simon, il reviendra peut-être, on ne sait pas.
Pour les news du basket, potentiellement.
Ben voilà, merci beaucoup et puis bisous bisous.
À bientôt.
Ciao.
Ciao.